Chapitre 2. La reconnaissance du roi Charles IX. Dieu dispose, la nuit des rois. Anagramme. Maurevel était resté une partie de la journée dans le cabinet des armes du roi. Mais quand Catherine avait vu approcher le moment du retour de la chasse, elle l'avait fait passer dans son oratoire avec les sbires qu'il était venu rejoindre. Charles IX avertit à son arrivée par sa nourrice qu'un homme avait passé une partie de la journée dans son cabinet, s'était d'abord mis dans une grande colère qu'on se fût permis d'introduire un étranger chez lui. Mais se l'étant fait dépeindre et sa nourrice lui ayant dit que c'était le même homme qu'elle avait été elle-même chargée de lui amener un soir, le roi avait reconnu Maurevel, et se rappelant l'ordre arraché le matin par sa mère, il avait tout compris. « Oh !» murmura Charles, « dans la même journée où il m'a sauvé la vie, le moment est mal choisi. » En conséquence, il fit quelques pas pour descendre chez sa mère, mais une pensée le retint. « Mordieu, dit-il, si je lui parle de cela, ce sera une discussion à n'en plus finir. Mieux vaut que nous agissions chacun de notre côté. »« Nourrice, dit-il, ferme bien toutes les portes et préviens la reine Élisabeth qu'un peu souffrant de la chute que j'ai faite, je dormirai seul cette nuit. » La nourrice obéit, et comme l'heure d'exécuter son projet n'était pas arrivée, Charles se mit à faire des vers. C'était l'occupation pendant laquelle le temps passait le plus vite pour lui. Aussi 9 heures sonnèrent-elles que Charles croyait encore qu'il en était à peine 7. Il compta l'un après l'autre les battements de la cloche, et au dernier, il se leva. « Nom d'un diable, dit-il, il tend tout juste. » Et prenant son manteau et son chapeau, il sortit par une porte secrète qu'il avait fait percer dans la boiserie et dont Catherine elle-même ignorait l'existence. Charles alla droit à l'appartement de Henri. Henri n'avait fait que rentrer chez lui pour changer de costume en quittant le duc d'Alençon, et il était sorti aussitôt. Ah, « il sera allé souper chez Margot, se dit le roi, et il s'achemina vers l'appartement de Marguerite. Marguerite avait ramené chez elle la duchesse de Nevers, Coconas et La Mole, et faisait avec eux une collation de confitures et de pâtisseries. Charles heurta la porte d'entrée, Gionne alla ouvrir, mais à l'aspect du roi, elle fut si épouvantée qu'elle trouva à peine la force de faire la révérence et qu'au lieu de courir pour prévenir sa maîtresse de l'auguste visite qui lui arrivait, elle laissa passer Charles sans donner d'autre signal que le cri qu'elle avait poussé. Le roi traversa l'antichambre et, guidé par les éclats de rire, il s'avança vers la salle à manger. « Pauvre Henriot, dit-il, il se réjouit sans penser à mal. « C'est moi, dit-il en soulevant la tapisserie et en montrant un visage riant. » Marguerite poussa un cri terrible. Tout riant qu'il était, ce visage produit chez elle l'effet de la tête de Méduse. Placée en face de la portière, elle venait de reconnaître Charles. Les deux hommes tournaient le dos au roi. « Majesté, s'écria-t-elle avec effroi, et elle se leva. » Coconas, quand les 3 autres convives sentaient en quelque sorte leur tête vaciller sur leurs épaules, fut le seul qui ne perdit pas la sienne. Il se leva aussitôt, mais avec une si habile maladresse qu'en se levant, il renversa la table et qu'avec elle, il culbuta cristaux, vaisselle et bougies. En un instant, il y eut obscurité complète et silence de mort. « Gagne au pied, dit Coconas à La Mole, hardi, hardi !» La Mole ne se le fit pas dire 2 fois, il se jeta contre le mur, s'orienta des mains, cherchant la chambre à coucher pour se cacher dans le cabinet qu'il connaissait si bien. Mais en mettant le pied dans la chambre à coucher, il se heurta contre un homme qui venait d'entrer par le passage secret. « Que signifie donc tout cela ?» dit Henri dans les ténèbres avec une voix qui commençait à prendre un formidable accent d'impatience. « Suis-je donc un trouble-fête que l'on fasse à ma vue un pareil remue-ménage ? Voyons, Henriot, Henriot, où es-tu ? Réponds-moi » « Nous sommes sauvés, murmura Marguerite en saisissant une main qu'elle prit pour celle de La Mole. Le roi croit que mon mari est un de nos convives. » « Et je le lui laisserai croire, madame, soyez tranquille, » dit Henri, répondant à la reine sur le même ton. « Grand Dieu !» s'écria Marguerite en lâchant vivement la main qu'elle tenait et qui n'était pas celle du roi de Navarre. « Silence !» dit Henri. « Mille noms du diable ! Qu'avez-vous donc à chuchoter ainsi ? » s'écria Charles. « Henri, répondez-moi, où êtes-vous ? » « Me voici, sire, » dit la voix du roi de Navarre. « Diable !» dit Coconas qui tenait la duchesse de Nevers dans un coin. « Voilà qui se complique. »« Alors, voilà que nous sommes 2 fois perdus !» dit Henriette. Coconas, ce brave jusqu'à l'imprudence, avait réfléchi qu'il fallait toujours finir par rallumer les bougies, et, prenant que le plus tôt serait le mieux, il quitta la main de Madame de Nevers, ramassa au milieu des débris un chandelier, s'approcha du chauffe-doux et souffla sur un charbon qui enflamma aussitôt la mèche d'une bougie. La chambre s'éclaira. Charles IX jeta autour de lui un regard interrogateur. Henri était près de sa femme, la duchesse de Nevers était seule dans un coin, et Coconas, debout, au milieu de la chambre, un chandelier à la main, éclairait toute la scène. « Excusez-nous, mon frère, dit Marguerite, nous ne vous attendions point. »« Aussi, votre majesté, comme elle peut le voir, nous a fait une peur étrange, dit Henriette. » Pour ma part, dit Henri, qui devina tout, je crois que la peur a été si réelle qu'en me levant, j'ai renversé la table. Coconas jeta au roi de Navarre un regard qui voulait dire « à la bonne heure, voilà un mari qui entend à demi-mot.
« Quel affreux remue-ménage !» répéta Charles IX. « Voilà ton souper renversé, Henriot. Viens avec moi, tu l'achèveras ailleurs, je te débauche pour ce soir. »
« Comment, sire, dit Henri, votre majesté me ferait l'honneur ?»«
Oui, ma majesté te fait l'honneur de t'emmener hors du Louvre. Prête-le-moi, Margot, je te le ramènerai demain matin. »
« Ah, mon frère, dit Marguerite, vous n'avez pas besoin de ma permission pour cela, vous êtes bien le maître. »«
Sire, dit Henri, je vais prendre chez moi un autre manteau et je reviens à l'instant même. »« Ah, tu n'en as pas besoin, Henriot, celui que tu as là est bon. »«
Mais, sire, essaya le Béarnais, je te dis de ne pas retourner chez toi, minon d'un diable. »«
N'entends-tu pas ce que je dis? Allons, viens donc. »«
Oui, oui, allez, dit tout à coup Marguerite en serrant le bras de son mari. » Car un singulier regard de Charles venait de lui apprendre qu'il se passait quelque chose d'étrange.
« Me voilà, sire, dit Henri. »
Mais Charles ramena son regard sur Coconas, qui continuait son office d'éclaireur en rallumant les autres bougies.
« Quel est ce gentilhomme ? » demanda-t-il à Henri en toisant le piémontais. « Ne serait-ce point par hasard monsieur de La Mole ?»«
Qui lui a parlé de La Mole ?» se demanda tout bas Marguerite.
« Non, sire, répondit Henri, monsieur de La Mole n'est point ici, et je le regrette, car j'aurais eu l'honneur de le présenter à votre majesté en même temps que monsieur de Coconas, son ami. Ces deux sont inséparables, et toutes deux appartiennent à monsieur le duc d'Alençon. »«
Ah, notre grand tireur, dit Charles, bon. » Puis, en fronçant le sourcil, « ce monsieur de La Mole, ajouta-t-il, n'est-il pas huguenot ?»«
Converti, sire Henri, et je réponds de lui comme de moi. »
« Quand vous répondez de quelqu'un, Henriot, après ce que vous avez fait aujourd'hui, je n'ai plus le droit de douter de lui. Mais n'importe, j'aurais voulu le voir, ce monsieur de La Mole, ce sera pour plus tard. » Et faisant de ses gros yeux une dernière perquisition dans la chambre, Charles embrassa Marguerite et emmena le roi de Navarre en le tenant par-dessous le bras. À la porte du Louvre, Henri voulut s'arrêter pour parler à quelqu'un.
« Allons, allons, sors vite, Henriot, lui dit Charles. Quand je te dis que l'air du Louvre n'est pas bon pour toi ce soir, que diable, crois-moi donc !»«
Ventre Saint-Gris, murmura Henri, et de Mouy, que va-t-il devenir seul dans ma chambre, pourvu que cet air qui n'est pas bon pour moi ne soit pas plus mauvais encore pour lui ?»
« Ah ça !» dit le roi, lorsque Henri et lui eurent traversé le pont-levis. « Cela t'arrange donc, Henriot, que les gens de monsieur le duc d'Alençon fassent la cour à ta femme ?»«
Comment cela, sire ?»«
Oui, ce monsieur de Coconas ne fait-il pas les yeux doux à Margot ?»«
Qui vous a dit cela ?»«
Dame, reprit le roi, on me l'a dit. »
« Raillerie pure, sire, monsieur de Coconas fait les yeux doux à quelqu'un, c'est vrai, mais c'est à madame de Nevers. » Charles se prit à rire aux éclats.
« Eh bien, dit-il, que le duc de Guise vienne encore me faire des propos et j'allongerai agréablement sa moustache en lui contant les exploits de sa belle-sœur. »
Après cela, dit le roi en se ravisant, je ne sais plus si c'était monsieur de Coconas ou monsieur de La Mole qui m'a parlé.
« Oh, pas plus l'un que l'autre, sire, dit Henri, et je vous réponds des sentiments de ma femme. »
« Bon, Henriot, bon, dit le roi, j'aime mieux te voir ainsi qu'autrement.
Sur mon honneur, tu es si brave garçon que je crois que je finirai par ne plus pouvoir me passer de toi. »
Et en disant ces mots, le roi se mit à siffler d'une façon particulière, et quatre gentilshommes qui attendaient au bout de la rue de Beauvais le vinrent rejoindre, et tous ensemble s'enfoncèrent dans l'intérieur de la ville. 10 heures sonnaient.
« Eh bien, dit Marguerite, quand le roi et Henri furent partis, nous remettons-nous à table ?»«
Oh non, ma foi, dit la duchesse, j'ai eu trop peur. Vive la petite maison de la cloche percée. On n'y vient pas entrer sans en faire le siège, et nos braves ont le droit d'y jouer des épées. »
Mais que cherchez-vous sous les meubles et sous les armoires, monsieur de Coconas ?»«
Je cherchais mon ami la Mole, » dit le Piémontais.
« Cherchez du côté de ma chambre, monsieur, » dit Marguerite, « il y a là un certain cabinet. »«
Bon, » dit Coconas, « j'y suis. » Et il entra dans la chambre.
« Eh bien, » dit une voix dans les ténèbres, « où en sommes-nous ?»«
Eh, mordi, nous en sommes au dessert. »
Et le roi de Navarre,
il n'a rien vu, c'est un mari parfait, et j'en souhaite un pareil à ma femme. Cependant, je crains bien qu'elle ne l'ait jamais qu'en seconde noce.
Et le roi Charles,
ah, le roi, c'est différent, il a emmené le mari.
En vérité, ah, c'est comme je te le dis, de plus il m'a fait l'honneur de me regarder de côté quand il a su que j'étais à monsieur d'Alençon, et de travers quand il a su que j'étais ton ami.
Et de sorte donc qu'on lui aura parlé de moi.
J'ai peur, au contraire, qu'on ne lui en ait dit trop de bien, mais ce n'est point de tout cela qu'il s'agit, je crois, que ces dames ont un pèlerinage à faire du côté de la rue du roi de Sicile, et que nous conduisons les pèlerines.
Mais impossible, tu le sais bien.
Comment impossible?
Eh oui, nous sommes de service chez son Altesse royale.
Ah, mardi, c'est ma foi vrai, j'oublie toujours que nous sommes en grade et que, de gentilhommes que nous étions, nous avons eu l'honneur de passer valet. Et les deux amis allèrent exposer à la reine et à la duchesse la nécessité où ils étaient d'assister au moins au coucher de monsieur le duc.
« C'est bien, » dit madame de Nevers, « nous partons de notre côté. »«
Et peut-on savoir où vous allez ?» demanda Coconas.
« Oh, vous êtes trop curieux, » dit la duchesse.
« Quoi errer est une vénièse. » Les deux jeunes gens saluèrent et montèrent en toute hâte chez monsieur d'Alençon. Le duc semblait les attendre dans son cabinet.
« Ah, ah » dit-il, « vous êtes bien tard, messieurs. »«
10 heures à peine, monseigneur, » dit Coconas.
« C'est vrai, » dit-il, « tout le monde est couché au Louvre, cependant. »«
Oui, monseigneur, mais nous voici à vos ordres. Faut-il introduire dans la chambre de votre Altesse les gentilshommes du petit coucher ?»«
Au contraire, passez dans la petite salle et congédiez tout le monde. »
Les deux jeunes gens obéirent, exécutèrent l'ordre donné, qui n'étonna personne à cause du caractère bien connu du duc, et revinrent près de lui.
« Monseigneur, » dit Coconas, « votre Altesse va sans doute se mettre au lit ou travailler. »«
Non, messieurs, vous avez congé jusqu'à demain. »«
Allons, allons, » dit tout bas Coconas à l'oreille de la Mole, « la cour découche ce soir, à ce qu'il paraît. La nuit sera friande en diable. Prenons notre part de la nuit. » Et les deux jeunes gens montaient les escaliers 4 à 4, prirent leurs manteaux et leurs épées de nuit et s'élancèrent hors du Louvre à la poursuite des deux dames qu'ils rejoignirent au coin de la rue du Coq-Saint-Honoré. Pendant ce temps, le duc d'Alençon, l'œil ouvert, l'oreille au guet, attendait, enfermé dans sa chambre, les événements imprévus qu'on lui avait promis. Comme l'avait dit le duc aux jeunes gens, le plus profond silence régnait au Louvre. En effet, Marguerite et madame de Nevers étaient parties pour la rue Tison, Coconas et la Mole s'étaient mis à leur poursuite, le roi et Henri battaient la ville, le duc d'Alençon se tenait chez lui dans l'attente vague et anxieuse des événements que lui avait prédit la reine-mère, enfin Catherine s'était mise au lit et madame de Sauve, assise à son chevet, lui faisait lecture de certains contes italiens dont riait fort la bonne reine. Depuis longtemps, Catherine n'avait été de si belle humeur. Après avoir fait de bon appétit une collation avec ses femmes, après avoir pris consultation du médecin, après avoir réglé les comptes quotidiens de sa maison, elle avait ordonné une prière pour le succès de certaines entreprises importantes, disait-elle, pour le bonheur de ses enfants. C'était l'habitude de Catherine, habitude du reste toute florentine, de faire dire dans certaines circonstances des prières et des messes dont Dieu et elle savaient seuls les buts. Enfin, elle avait revu René et avait choisi dans ses odorants sachets et dans son riche assortiment plusieurs nouveautés. « Qu'on sache, dit Catherine, si ma fille, la reine de Navarre, est chez elle, et si elle y est, qu'on la prie de venir me faire compagnie. » Le page auquel cet ordre était adressé sortit, et un instant après, il revint, accompagné de Gionne. « Eh bien, dit la reine-mère, j'ai demandé la maîtresse, et non la suivante. »«
Madame, dit Gionne, j'ai cru devoir moi-même venir dire à votre majesté que la reine de Navarre est sortie avec son amie, la duchesse de Nevers. »«
Sortie à 7 heures ? » reprit Catherine en fronçant le sourcil. « Et où peut-elle être allée ?»
« À une séance d'alchimie, » répondit Gionne, « laquelle doit avoir lieu à l'hôtel de Guise, dans le pavillon habité par madame de Nevers. »«
Et que rentrera-t-elle ? » demanda la reine-mère.
Oh, la séance se prolongera fort avant dans la nuit, répondit Gion, de sorte qu'il est probable que Sa Majesté demeurera demain matin chez son ami.
Au reste, murmura Catherine, puisqu'elle est sortie. Car elle est sortie, dites-vous.
Depuis une demi-heure, madame.
Tout est pour le mieux. Allez.
Gion salua et sortit.
Oh, continuez votre lecture, Charlotte, dit la reine.
Madame de Sauve continua.
Au bout de 10 minutes, Catherine interrompit la lecture.
« Ah, à propos, dit-elle, qu'on renvoie les gardes de la galerie ?»
C'était le signal qu'attendait Maurevel.
On exécuta l'ordre de la reine-mère et Madame de Sauve continua son histoire.
Elle avait lu un quart d'heure à peu près, sans interruption aucune, lorsqu'un cri long, prolongé, terrible, parvint jusque dans la chambre royale et fit dresser les cheveux sur la tête des assistants. Un coup de pistolet le suivit immédiatement.
Eh, qu'est-ce que cela, dit Catherine, et pourquoi ne lisez-vous plus Carlotta?
Madame, dit la jeune femme pâlissante, n'avez-vous point entendu?
Quoi, demanda Catherine,
ce cri.
Et ce coup de pistolet, ajouta le capitaine des gardes.
Un cri, un coup de pistolet, ajouta Catherine, je n'ai rien entendu, moi. D'ailleurs, est-ce donc une chose bien extraordinaire au Louvre qu'un cri et qu'un coup de pistolet?
« Lisez, lisez, Carlotta. »«
Mais écoutez, madame, dit celle-ci, tandis que M. de Nancy se tenait debout la main à la poignée de son épée et n'osant sortir sans le congé de la reine. Écoutez, on n'entendait pas des imprécations. »«
Faut-il que je m'informe, madame, dit ce dernier. » »«
Point du tout, monsieur. Restez là, dit Catherine, en se soulevant sur une main comme pour donner plus de force à son ordre. » Qui donc me garderait en cas d'alarme? Ce sont quelques Suisses ivres qui se battent. »
Le calme de la reine, opposé à la terreur qui planait sur toute cette assemblée, formait un contraste tellement remarquable que, si timide qu'elle fût, Madame de Sauve fixa un regard interrogateur sur la reine.
« Mais, madame, s'écria-t-elle, on dirait que l'on tue quelqu'un !»«
Qui voulez-vous que l'on tue ?»«
Mais le roi de Navarre, madame, le bruit vient du côté de son appartement !»
La sotte, murmura la reine, dont les lèvres, malgré sa puissance sur elle-même, commençaient à s'agiter étrangement, car elle marmottait une prière.
La sotte voit son roi de Navarre partout. « mon Dieu !» dit Madame de Sauve en retombant sur son fauteuil.
« c'est fini !» dit Catherine. « Capitaine, continua-t-elle en s'adressant à Monsieur de Nancy, j'espère que s'il y a du scandale au palais, vous ferez demain punir sévèrement les coupables. Reprenez votre lecture, Carlotta. »
Et Catherine retomba elle-même sur son oreiller dans une impassibilité qui ressemblait beaucoup à de l'affaissement, car les assistants remarquèrent que de grosses gouttes de sueur roulaient sur son visage. Madame de Sauve obéit à cet ordre formel, mais ses yeux et sa voix fonctionnaient seuls. Sa pensée errant sur d'autres objets lui représentait un danger terrible suspendu sur une tête chérie. Enfin, après quelques minutes de ce combat, elle se trouva tellement oppressée entre l'émotion et l'étiquette que sa voix cessa d'être intelligible. Le livre lui tomba des mains, elle s'évanouit. Soudain, un fracas plus violent se fit entendre. Un pas lourd et pressé ébranla le corridor. Deux coups de feu partirent, faisant vibrer les vitres. Et Catherine, étonnée de cette lutte prolongée outre mesure, se dressa à son tour, droite, pâle, les yeux dilatés. Et au moment où le capitaine des gardes allait s'élancer dehors, elle l'arrêta en disant « Que tout le monde reste ici, j'irai moi-même voir là-bas ce qui se passe. » Voilà ce qui se passait, ou plutôt ce qui s'était passé. De Mouy avait reçu le matin, des mains d'Orton, la clé de Henri. Dans cette clé, qui était forée, il avait remarqué un papier roulé. Il avait tiré le papier avec une épingle. C'était le mot d'ordre du Louvre pour la prochaine nuit. En outre, Orton lui avait verbalement transcrit les paroles de Henri qui invitait de Mouy à venir trouver à 10 heures le roi au Louvre. À 9h30, de Mouy avait revêtu une armure dont il avait plus d'une fois déjà eu l'occasion de reconnaître la solidité. Il avait boutonné dessus un pourpoint de soie, avait agrafé son épée, passé dans le ceinturon ses pistolets, recouvert le tout du fameux manteau cerise de la Mole. Nous avons vu comment, avant de rentrer chez lui, Henri avait jugé à propos de faire une visite à Marguerite et comment il était arrivé par l'escalier secret juste à temps pour heurter la Mole dans la chambre à coucher de Marguerite et pour prendre sa place aux yeux du roi dans la salle à manger. C'était précisément au moment même que, grâce au mot d'ordre envoyé par Henri et surtout au fameux manteau cerise, de Mouy traversait le guichet du Louvre. Le jeune homme monta droit chez le roi de Navarre, imitant de son mieux, comme l'habitude, la démarche de la Mole. Il trouva dans l'antichambre Horton qui l'attendait.
« Sire de Mouy, lui dit le montagnard, le roi est sorti, mais il m'a ordonné de vous introduire chez lui et de vous dire de l'y attendre. S'il tarde par trop, il vous invite, vous le savez, à vous jeter sur son lit. »
Pour utiliser son temps, de Mouy prit une plume et de l'encre, et s'approchant d'une excellente carte de France pendue à la muraille, il se mit à compter et à régler les étapes qu'il y avait de Paris à Pau. Mais ce travail fut l'affaire d'un quart d'heure, et ce travail fini, de Mouy ne sut plus à quoi s'occuper. Il fit deux ou trois tours de chambre, se frotta les yeux, bâilla, s'assit et se leva et se rassit encore. Enfin, profitant de l'invitation de Henri, excusé d'ailleurs par les lois de familiarité qui existaient entre les princes et leurs gentilshommes, il déposa sur la table de nuit ses pistolets et la lampe, s'étendit sur le vaste lit à tenture sombre qui garnissait le fond de la chambre, plaça son épée nue le long de sa cuisse, et sûr de n'être pas surpris puisqu'un domestique se tenait dans la pièce précédente, il se laissa aller à un sommeil pesant dont bientôt le bruit fit retentir les vastes échos du baldaquin. De Mouy ronflait en vrai soudard et sous ce rapport aurait pu lutter avec le roi de Navarre lui-même. C'est alors que six hommes, l'épée à la main et le poignard à la ceinture, se glissèrent silencieusement dans le corridor qui, par une petite porte, communiquait aux appartements de Catherine et par une grande donnait chez Henri. Un de ces six hommes marchait le premier. Outre son épée nue et son poignard fort comme un couteau de chasse, il portait encore ses fidèles pistolets accrochés à sa ceinture par des agrafes d'argent. Cet homme, c'était Maurevel. Arrivé à la porte de Henri, il s'arrêta.
« Vous êtes bien assuré que les sentinelles du corridor ont disparu ?» demanda-t-il à celui qui paraissait commander la petite troupe.
« Pas une seule n'est à son poste, » répondit le lieutenant.
« Bien, » dit Maurevel.
« Mais, » dit le lieutenant en arrêtant la main que Maurevel posait sur le marteau de la porte, « mais, capitaine, cet appartement est celui du roi de Navarre. »«
Qui vous dit le contraire ?» répondit Maurevel. Les sbires se regardèrent tous surpris, et le lieutenant fit un pas en arrière.
Fit le lieutenant, arrêter quelqu'un à cette heure au Louvre et dans l'appartement du roi de Navarre.
Que répondriez-vous donc, dit Maurevel, si je vous disais que celui que vous allez arrêter est le roi de Navarre lui-même?
Je vous dirais, capitaine, que la chose est grave et que, sans un ordre signé de la main de Charles IX,
lisez, dit Maurevel.
Et tirant de son pourpoint l'ordre que lui avait remis Catherine, il le donna au lieutenant.
« C'est bien, » répondit celui-ci, « après avoir lu, je n'ai plus rien à vous dire. »«
Et vous êtes prêt ?»«
Je le suis. »«
Et vous ?» continua Maurevel en s'adressant aux cinq autres sbires. Ceux-ci saluèrent avec respect.
« Écoutez-moi donc, messieurs, » dit Maurevel, « voilà le plan. Deux de vous resteront à cette porte, deux à la porte de la chambre à coucher, et deux entreront avec moi. »«
Ensuite, » dit le lieutenant,
« écoutez bien ceci. » Il nous est ordonné d'empêcher le prisonnier d'appeler, de crier, de résister. Toute infraction à cet ordre doit être punie de mort.
Allons, allons, il a carte blanche, dit le lieutenant, à l'homme désigné avec lui pour suivre Maurevel chez le roi.
Tout à fait, dit Maurevel.
Pauvre diable de roi de Navarre, dit un des hommes, il était écrit là-haut qu'il ne devait pas en réchapper.
Et ici-bas, dit Maurevel en reprenant des mains du lieutenant l'ordre de Catherine qu'il rentra dans sa poitrine.
Maurevel introduisit dans la serrure la clé que lui avait remise Catherine, et laissant deux hommes à la porte extérieure, comme il était convenu, entra, avec les quatre autres, dans l'antichambre.
« Ah !» dit Maurevel, en entendant la bruyante respiration du dormeur dont le bruit arrivait jusqu'à lui. « Il paraît que nous trouverons ici celui que nous cherchons. »
Aussitôt, Horton, pensant que c'était son maître qui rentrait, alla au-devant de lui et trouva en face de lui cinq hommes armés qui occupaient la première chambre. À la vue de ce visage sinistre, de ce Maurevel qu'on appelait le tueur du roi, le fidèle serviteur recula et se plaçant devant la seconde porte. «
Qui êtes-vous ? » dit Horton. « Que voulez-vous ? »
« Au nom du roi, » répondit Maurevel, « où est ton maître ?»
« Le roi de Navarre n'est pas au logis, » dit Horton, en défendant plus que jamais sa porte aussi, « vous ne pouvez pas entrer.
»« Prétexte, mensonge, » dit Maurevel. « Allons, arrière !»«
Les Béarnais sont entêtés. »
Celui-ci gronda comme un chien de ces montagnes, et sans se laisser intimider, « Vous n'entrerez pas, dit-il, le roi est absent !» Et il se cramponna à la porte. Maurevel fit un geste. Les quatre hommes s'emparèrent du récalcitrant, l'arrachant au chambranle auquel il se tenait cramponné, et comme il ouvrait la bouche pour crier, Maurevel lui appliqua la main sur les lèvres. Horton mordit furieusement l'assassin qui retira sa main avec un cri sourd et frappa du pommeau de son épée le serviteur sur la tête. Horton chancela et tomba en criant « Alarme, alarme, alarme !» Sa voix expira, il était évanoui. Les assassins passèrent sur son corps, puis deux restèrent à cette seconde porte et les deux autres entrèrent dans la chambre à coucher conduite par Maurevel. À la lueur de la lampe brûlant sur la table de nuit, ils virent le lit. Les rideaux étaient fermés. « Oh !» dit le lieutenant, « il ne ronfle plus, ce me semble. »« Allons, sus !» dit Maurevel. À cette voix, un cri rauque qui ressemblait plutôt au rugissement du lion qu'à des accents humains, partit de dessous les rideaux qui s'ouvrirent violemment, et un homme armé d'une cuirasse et le front couvert d'une de ces salades qui ensevelissait la tête jusqu'aux yeux, apparut, assis, deux pistolets à la main et son épée sur les genoux. Maurevel n'eut pas plutôt aperçu cette figure et reconnu de Mouy qu'il sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Il devint d'une pâleur affreuse. Sa bouche se remplit d'écume, et comme s'il se fût trouvé en face d'un spectre, il fit un pas en arrière. Soudain, la figure armée se leva et fit en avant un pas égal à celui de Maurevel qu'il avait fait en arrière, de sorte que c'était lui qui était menacé qui semblait poursuivre, et celui qui menaçait qui semblait fuir. « Ah, scélérat !» dit de Mouy d'une voix sourde, « tu viens pour me tuer comme tu as tué mon père !» Deux des sbires, c'est-à-dire ceux qui étaient entrés avec Maurevel dans la chambre du roi, entendirent seuls ces paroles terribles, mais en même temps qu'elles avaient été dites, le pistolet s'était abaissé à la hauteur du front de Maurevel. Maurevel se jeta à genoux au moment où de Mouy appuyait le doigt sur la détente. Le coup partit, et un des gardes qui se trouvait derrière lui et qui l'avait démasqué par ce mouvement tomba, frappé au cœur. Au même instant, Maurevel riposta, mais la balle alla s'aplatir sur la cuirasse de De Mouy. Alors, prenant son élan, mesurant la distance, De Mouy, d'un revers de sa large épée, fendit le crâne du deuxième garde et, se retournant vers Maurevel, engagea l'épée avec lui. Le combat fut terrible, mais court. À la quatrième passe, Maurevel sentit dans sa gorge le froid de l'acier. Il poussa un cri étranglé, tomba en arrière et, en tombant, renversa la lampe qui s'éteignit. Aussitôt, De Mouy, profitant de l'obscurité, vigoureux et agile comme un héros d'Homère, s'élança tête baissée vers l'antichambre, renversa un des gardes, repoussa l'autre, passa comme un éclair entre les sbires qui gardaient la porte extérieure, essuya deux coups de pistolet, dont les balles éraillèrent la muraille du corridor, et dès lors il fut sauvé, car un pistolet tout chargé lui restait encore, outre cette épée qui frappait de si terribles coups. Un instant, De Mouy hésita pour savoir s'il devait fuir chez M. d'Alençon, dont il lui semblait que la porte venait de s'ouvrir, ou s'il devait essayer de sortir du Louvre. Il se décida pour ce dernier parti, reprit sa course, d'abord ralentie, sauta 10 degrés d'un coup, parvint au guichet, prononça les deux mots de passe et s'élança en criant « Allez là-haut, on y tue pour le compte du roi !» Et, profitant de la stupéfaction que ses paroles jointes au bruit des coups de pistolet avaient jeté dans le poste, il gagna au pied et disparut dans la rue du Coq sans avoir reçu une égratignure. C'était en ce moment que Catherine avait arrêté son capitaine des gardes en disant « Demeurez, j'irai voir moi-même ce qui se passe là-bas ». Le capitaine demeura. Alors Catherine prit une lampe, passa ses pieds nus dans ses mules de velours, sortit de la chambre, gagna le corridor encore plein de fumée et s'avança, impassible et froide comme une ombre, vers l'appartement du roi de Navarre. Tout était redevenu silencieux. Catherine arriva à la porte d'entrée, en franchit le seuil et vit d'abord dans l'antichambre Horton évanoui. « Ah ! Dit-elle, voici toujours le laquais. Plus loin, sans doute, nous allons trouver le maître. » Et elle franchit la seconde porte. Là, son pied heurta un cadavre, elle abaissa sa lampe, c'était celui du garde qui avait eu la tête fendue. Il était complètement mort. 3 pas plus loin était le lieutenant, frappé d'une balle et râlant dans un dernier soupir. Enfin, devant le lit, un homme qui, la tête pâle comme celle d'un mort, perdant son sang par une double blessure qui lui traversait le cou, raidissant ses mains crispées, essayait de se relever, c'était Maurevel. Un frisson passa dans les veines de Catherine, elle vit le lit désert, elle regarda autour de la chambre et chercha en vain parmi ces trois hommes couchés dans leur sang le cadavre qu'elle espérait. Maurevel reconnut Catherine, ses yeux se dilatèrent horriblement et il tendit vers elle un geste désespéré. « Eh bien, dit-elle à mi-voix, où est-il? Qu'est-il devenu? Malheureux, l'auriez-vous laissé s'échapper ?» Maurevel essaya d'articuler quelques paroles, mais un sifflement inintelligible sortit seul de sa blessure, une écume rougeâtre frangea ses lèvres, et il secoua la tête en signe d'impuissance et de douleur. « Mais parle donc !» s'écria Catherine, « parle donc, ne fût-ce que pour me dire un seul mot !» Maurevel montra sa blessure et fit entendre de nouveau quelques sons inarticulés, tenta un effort qui n'aboutit qu'à un rauque râlement et s'évanouit. Catherine alors regarda autour d'elle, elle était entourée de cadavres et de mourants. Le sang coulait à flots par la chambre et un silence de mort planait sur toute cette scène. Encore une fois, elle adressa la parole à Maurevel, mais sans le réveiller. Cette fois, il demeura non seulement muet, mais immobile. Un papier sortait de son pourpoint, c'était l'ordre d'arrestation signé du roi. Catherine s'en saisit et le cacha dans sa poitrine. En ce moment, Catherine entendit derrière elle un léger froissement du parquet. Elle se retourna et vit debout, à la porte de la chambre, le duc d'Alençon, que le bruit avait attiré malgré lui et que le spectacle qu'il avait sous les yeux fascinait. « Vous ici ? » dit-elle. « Oui, madame. Que se passe-t-il donc, mon Dieu ?» demanda le duc. « Retournez chez vous, François, et vous apprendrez assez tôt la nouvelle. » D'Alençon n'était pas aussi ignorant de l'aventure que Catherine le supposait. Au premier pas, retentissant dans le corridor, il avait écouté, et voyant entrer des hommes chez le roi de Navarre, il avait, en rapprochant ce fait des paroles de Catherine, deviné ce qui allait se passer, et s'était applaudi de voir un ami si dangereux détruit par une main plus forte que la sienne. Bientôt, des coups de feu, les pas rapides d'un fugitif avaient attiré son attention, et il avait vu dans l'espace lumineux projeté par l'ouverture de la porte de l'escalier disparaître un manteau rouge qui lui était par trop familier pour qu'il ne le reconnût pas. « De Mouy, s'écria-t-il, de Mouy chez mon beau-frère de Navarre, mais non, c'est impossible, serait-ce monsieur de La Mole ?» Alors l'inquiétude le gagna. Il se rappela que le jeune homme lui avait été recommandé par Marguerite elle-même, et voulant s'assurer si c'était lui qu'il venait de voir passer, il monta rapidement à la chambre des deux jeunes gens. Elle était vide, mais dans un coin de cette chambre, il trouva suspendu le fameux manteau cerise. Ses doutes avaient été fixés, ce n'était donc pas La Mole, mais De Mouy. La pâleur sur le front, tremblant que le huguenot ne fût découvert et ne trahît les secrets de la conspiration, il s'était alors précipité vers le guichet du Louvre. Là, il avait appris que le manteau cerise s'était échappé sain et sauf en annonçant qu'on tuait dans le Louvre pour le compte du roi. « Il se trompait, murmura d'Alençon, c'est pour le compte de la reine-mère. » Et revenant vers le théâtre du combat, il trouva Catherine errant comme une hyène parmi les morts. À l'ordre que lui donna sa mère, le jeune homme rentra chez lui, affectant le calme et l'obéissance malgré les idées tumultueuses qui agitaient son esprit. Catherine, désespérée de voir cette nouvelle tentative échouer, appela son capitaine des gardes, fit enlever les corps, demanda que Maurevel, qui n'était que blessé, fût reporté chez lui et ordonna qu'on ne réveillât point le roi. « Oh » murmura-t-elle en rentrant dans son appartement, la tête inclinée sur sa poitrine, « il a échappé cette fois encore. La main de Dieu est étendue sur cet homme, il règnera, il règnera. » Puis, comme elle ouvrait la porte de sa chambre, elle passa la main sur son front et se composa un sourire banal. « Qu'y avait-il donc, madame ?» demandèrent tous les assistants, à l'exception de madame de Sauve, trop effrayée pour faire des questions. « Rien, répondit Catherine, du bruit, voilà tout. » « Oh !» s'écria tout à coup madame de Sauve, en indiquant du doigt le passage de Catherine, « Votre Majesté dit qu'il n'y a rien, et chacun de vos pas laisse une trace sur le tapis. » Cependant, Charles IX marchait à côté de Henri, appuyé à son bras, suivi de quatre gentilshommes et précédé de deux porte-torches. « Quand je sors du Louvre, disait le pauvre roi, j'éprouve un plaisir analogue à celui qui me vient quand j'entre dans une belle forêt. Je respire, je vis, je suis libre. » Henri sourit. « Ah, votre majesté serait bien dans les montagnes du Béarn alors, dit Henri. Oui, je comprends que tu aies envie de retourner, mais si le désir t'en prend par trop fort, Henriot, ajouta Charles en riant,
Prends bien tes précautions, c'est un conseil que je te donne, car ma mère Catherine t'aime si fort qu'elle ne peut absolument se passer de toi. Que fera votre majesté ce soir, dit Henri, en détournant cette conversation dangereuse. Je veux te faire faire une connaissance, Henriot, tu me diras ton avis.
Je suis aux ordres de votre majesté.
À droite, nous allons rue des Barres.
Les deux rois, suivis de leur escorte, avaient dépassé la rue de la Savonnerie, quand, à la hauteur de l'hôtel de Condé, ils virent deux hommes, enveloppés de grands manteaux, sortir par une fausse porte que l'un d'eux referma sans bruit.
« Oh !» dit le roi Henri, qui, selon son habitude, regardait aussi, mais sans rien dire, « cela mérite attention. »«
Pourquoi dites-vous cela, sire ?» demanda le roi de Navarre.
Ah, « ce n'est pas pour toi, Henriot, tu es sûr de ta femme, » ajouta Charles avec un sourire.
« Mais ton cousin de Condé n'est pas sûr de la sienne, ou, s'il en est sûr, il a tort, le diable m'emporte. »
« Mais qui vous dit, sire, que ce soit madame de Condé que visitaient ces messieurs ?»«
Un pressentiment. » L'immobilité de ces deux hommes qui se sont rangés dans la porte depuis qu'ils nous ont vus et qui n'en bougent pas, puis certaines coupes de manteau du plus petit des deux, par Dieu, ce serait étrange.
Quoi ?
Rien, une idée qui m'arrive, voilà tout. Avançons.
Et il marcha droit aux deux hommes qui, voyant alors que c'était bien à eux qu'on en avait, firent quelques pas pour s'éloigner.
Voilà, messieurs, dit le roi, arrêtez.
« Est-ce à nous qu'on parle ?» demanda une voix qui fit tressaillir Charles et son compagnon.
« Eh bien, Henriot, dit Charles, reconnais-tu cette voix-là, maintenant ?»«
Sire, dit Henri, si votre frère, le duc d'Anjou, n'était point à La Rochelle, je jurerais que c'est lui qui vient de parler. »«
Eh bien, dit Charles, c'est qu'il n'est point à La Rochelle, voilà tout. »«
Mais qui est avec lui ? Tu ne reconnais pas le compagnon ?»«
Non, sire. »
Il est pourtant de taille à ne pas s'y tromper.
Attends, tu vas le reconnaître.
Hola, eh, vous dis-je, répéta le roi. N'avez-vous pas entendu, mordieu?
Êtes-vous le guet que pour nous arrêter, dit le plus grand des deux hommes, développant son bras hors des plis de son manteau.
Prenez que nous sommes le guet, dit le roi, et arrêtez quand on vous l'ordonne.
Vous êtes huit, dit le plus grand des deux hommes, montrant cette fois non seulement son bras, mais encore son visage. Et fussiez-vous encore cent, passez au large.
« Ah, le duc de Guise, dit Henri.
Ah, notre cousin de Lorraine, dit le roi. Vous faites enfin connaître, c'est heureux.
Le roi, s'écria le duc.
Quant à l'autre personnage, on le vit à ses paroles s'ensevelir dans son manteau et demeurer immobile après s'être d'abord découvert la tête par respect.
« Sire, dit le duc de Guise, je venais de rendre visite à ma belle-sœur, madame de Condé.
« Oui, et vous avez amené avec vous un de vos gentilshommes.
Hein. Lequel ?»
« Sire, répondit le duc, votre majesté ne le connaît pas. »«
Nous ferons connaissance, alors, dit le roi. »
Et marchant droit à l'autre figure, il fit signe à un des deux laquais d'approcher son flambeau.
« Pardon, mon frère, dit le duc d'Anjou, en décroisant son manteau et s'inclinant avec un dépit mal déguisé.
« Ah, Henri, c'est vous !
Mais non, ce n'est point possible, je me trompe, mon frère d'Anjou ne serait pas allé voir quelqu'un avant de venir me voir moi-même. »
« Il n'ignore pas que pour les princes de sang qui rentrent dans la capitale, il n'y a qu'une porte à Paris, c'est le guichet du Louvre. »«
Pardonnez, sire, dit le duc d'Anjou, je prie votre majesté d'excuser mon inconséquence. »«
Oui, da, répondit le roi d'un ton moqueur.
« Et que faisiez-vous donc, mon frère, à l'hôtel de Condé ?»«
Eh, mais, dit le roi de Navarre de son air narquois, ce que votre majesté disait tout à l'heure. »
Et se penchant à l'oreille du roi, il termina sa phrase par un grand éclat de rire.
« Qu'est-ce donc ? » demanda le duc de Guise avec hauteur, car, comme tout le monde à la cour, il avait pris l'habitude de traiter assez rudement ce pauvre roi de Navarre.
« Pourquoi n'irai-je pas voir ma belle-sœur ? Monsieur le duc d'Alençon ne va-t-il pas voir la sienne ?»
Henri rougit légèrement.
« Quelle belle-sœur ? » demanda Charles. « Je ne lui en connais pas d'autre que la reine Élisabeth. »
« Pardon, sire, c'est sa sœur que j'aurais dû dire, madame Marguerite, que nous avons vue passer en venant ici, il y a une demi-heure dans sa litière, accompagnée de deux muguets qui trottaient chacun à une portière. »«
Vraiment, dit Charles, que répondez-vous à cela, Henri ?»«
Oh, que la reine de Navarre est bien libre d'aller où elle veut, mais que je doute qu'elle soit sortie du Louvre. » »«
Et moi, j'en suis sûr, dit le duc de Guise. »
« Et moi aussi, fit le duc d'Anjou, à telle enseigne que la litière s'est arrêtée, rue Cloche-Percée. »
« Il faut que votre belle-sœur, pas celle-ci, dit Henri en montrant l'hôtel de Condé, mais celle de là-bas, et il tourna le doigt dans la direction de l'hôtel de Guise, soit aussi de la partie, car nous les avons laissées ensemble, et comme vous le savez, elles sont inséparables. »« Je ne comprends pas ce que veut dire votre majesté, répondit le duc de Guise.
Au contraire, dit le roi, rien de plus clair, et voilà pourquoi il y avait un muguet courant à chaque portière.
Eh bien, dit le duc, s'il y a scandale de la part de la reine et de la part de mes belles-sœurs, invoquons pour le faire cesser la justice du roi.
Pardieu, dit Henri, laissez là mesdames de Condé et de Nevers, le roi ne s'inquiète pas de sa sœur, et moi j'ai confiance dans ma femme.
Non pas, dit Charles, je veux en avoir le cœur net, mais faisons nos affaires nous-mêmes. La litière s'est arrêtée rue Cloche-Percée, dites-vous, mon cousin.
Oui, sire. Eh bien, allons-y, et s'il faut brûler la maison pour savoir qui est dedans, on la brûlera.
C'est avec ces dispositions assez peu rassurantes pour la tranquillité de ceux dont il est question que les quatre principaux seigneurs du monde chrétien prirent le chemin de la rue Saint-Antoine. Les quatre princes arrivèrent rue Cloche-Percée. Charles, qui voulait faire ses affaires en famille, renvoya les gentilshommes de sa suite en leur disant de disposer du reste de leur nuit, mais de se tenir près de la Bastille à 6 heures du matin avec 2 chevaux. Il n'y avait que 3 maisons dans la rue Cloche-Percée. La recherche était d'autant moins difficile que 2 ne firent aucun refus d'ouvrir. C'était celle qui touchait l'une à la rue Saint-Antoine, l'autre à la rue du roi de Sicile. Quant à la 3e, ce fut autre chose. C'est celle qui était gardée par le concierge allemand, et le concierge allemand était peu traitable. Paris semblait destiné à offrir cette nuit les plus mémorables exemples de fidélité domestique. Monsieur de Guise eut beau menacer dans le plus pur saxon, Henri d'Anjou eut beau offrir une bourse pleine d'or, Charles eut beau aller jusqu'à dire qu'il était lieutenant de guet, le brave Allemand ne tint compte ni de la déclaration, ni de l'offre, ni des menaces. Voyant que l'on insistait, et d'une manière qui devenait importune, il glissa entre les barres de fer l'extrémité de certaines arquebuses, démonstration dont ne firent que rire 3 des 4 visiteurs. Henri de Navarre se tenant à l'écart comme si la chose eût été sans intérêt pour lui. Attendu que l'arme, ne pouvant obliquer dans les barreaux, ne devait guère être dangereuse que pour un aveugle qui eût été se placer en face. Voyant qu'on ne pouvait intimider, corrompre ni fléchir le portier, le duc de Guise feignit de partir avec ses compagnons, mais la retraite ne fut pas longue. Au coin de la rue Saint-Antoine, le duc trouva ce qu'il cherchait. C'était une de ces pierres comme en remuait 3000 ans auparavant Ajax, Télamon et Diomède. Il la chargea sur son épaule et revint en faisant signe à ses compagnons de le suivre. Juste en ce moment, le concierge, qui avait vu ceux qu'il prenait pour des malfaiteurs s'éloigner, refermait la porte sans avoir encore eu le temps de repousser les verrous. Le duc de Guise profita de ce moment. Véritable catapulte vivante, il lança la pierre contre la porte. La serrure vola, emportant la portion de la muraille dans laquelle elle était scellée. La porte s'ouvrit, renversant l'Allemand qui tomba en donnant par un cri terrible l'éveil à la garnison qui, sans ce cri, courait grand risque d'être surprise. Commencer par éteindre les bougies, ouvrir les fenêtres, s'élancer sur le balcon, distinguer 4 hommes dans les ténèbres, leur lancer sur la tête tous les projectiles qui leur tombèrent sous la main, faire un affreux bruit de coups de plat d'épée qui n'atteignait que le mur, tel fut l'exercice auquel se livrèrent immédiatement La Mole et Coconas. Charles, le plus acharné des assaillants, reçut une aiguillère d'argent sur l'épaule, le duc d'Anjou un bassin contenant une compote d'orange et de cédrat, et le duc de Guise un quartier de venaison. Henri ne reçut rien. Il questionnait tout bas le portier que monsieur de Guise avait attaché à la porte et qui répondait par son éternel « Ich verstehe nicht ». Les femmes encourageaient les assiégés en leur passant des projectiles qui se succédaient comme une grêle. « Par la mort diable !» s'écria Henri IX en recevant sur la tête un tabouret qui lui fit rentrer son chapeau jusque sur le nez. « Qu'on m'ouvre bien vite ou je ferai tout pendre là-haut !»«
Mon frère !» dit Marguerite bas à la Mole. « Le roi !» dit celui-ci tout bas à Henriette. « le roi !» dit celle-ci à Coconas qui traînait un bahut vers la fenêtre et qui tenait à exterminer le duc de Guise auquel, sans le reconnaître, il avait particulièrement affaire. « Le roi, je vous dis !» Coconas lâcha le bahut, regarda d'un air étonné. « Le roi » dit-il. « Oui, le roi. » « Alors, en retraite. Et justement, La Mole et Marguerite sont déjà partis. Venez. »« Mais par où ?»« Venez, vous dis-je. » Et le prenant par la main,
Henriette entraîna Coconas par la porte secrète qui donnait dans la maison attenante, et tous quatre, après avoir refermé la porte derrière eux, s'enfuirent par l'issue qui donnait rue Tison.
« Oh !» dit Charles, « je crois que la garnison se rend !»
On attendit quelques minutes, mais aucun bruit ne parvint jusqu'aux assiégeants.
« On prépare quelques ruses, » dit le duc de Guise.
« Ou plutôt non, on a reconnu la voix de mon frère et l'on détale, » dit le duc d'Anjou.
« Il faudra toujours bien qu'on passe par ici, » dit Charles.
« Oui, » reprit le duc d'Anjou, « si la maison n'a pas deux issues. »«
Cousin, » dit le roi, « reprenez votre pierre et faites de l'autre porte comme de celle-ci. »
Le duc pensa qu'il était inutile de recourir à de pareils moyens, et comme il avait remarqué que la seconde porte était moins forte que la première, il l'enfonça d'un simple coup de pied.
« les torches !» dit le roi.
Les laquais s'approchèrent. Elles étaient éteintes, mais ils avaient sur eux tout ce qu'il fallait pour les rallumer. On fit de la flamme, Charles IX en prit une et passa l'autre au duc d'Anjou. Le duc de Guise marcha le premier, l'épée à la main. Henri ferma la marche. On arriva au premier étage. Dans la salle à manger était servi, ou plutôt desservi, le souper, car c'était particulièrement le souper qui avait fourni les projectiles. Les candélabres étaient renversés, les meubles sans dessus-dessous, et tout ce qui n'était pas vaisselle d'argent en pièces. On passa dans le salon, là, pas plus de renseignements que dans la première chambre sur l'identité des personnages. Des livres grecs et latins, quelques instruments de musique, voilà, tout ce qu'on trouva. La chambre à coucher était plus muette encore. Une veilleuse brûlait dans un globe d'albâtre suspendu au plafond, mais on ne paraissait pas même être entré dans cette chambre. « Il y a une seconde sortie, » dit le roi.
« C'est probable, » dit duc d'Anjou.
« Mais où est-elle ? » demanda duc de Guise. « On chercha de tous côtés. On ne la trouva pas. »«
Où est le concierge ? » demanda le roi.
« Je l'ai attaché à la grille, » dit le duc de Guise.
« Interrogez-le, cousin.
Il ne voudra pas répondre. »«
Bah, on lui fera un petit feu bien sec autour des jambes, » dit le roi en riant, « et il faudra bien qu'il parle. »
Henri regarda vivement par la fenêtre.
« Il n'y est plus, » dit-il.
« Ah, qui l'a détaché ?» demanda vivement le duc de Guise.
« Bon diable !» s'écria le roi, « nous ne saurons rien encore !»«
En effet, » dit Henri, « vous voyez bien, sire, que rien ne prouve que ma femme et la belle-sœur de monsieur le duc de Guise aient été dans cette maison. »
« C'est vrai, » dit Charles, « l'écriture nous apprend qu'il y a trois choses qui ne laissent pas de traces, l'oiseau dans l'air, le poisson dans l'eau, et la femme,
mais non, je me trompe, l'homme chez... »
Ainsi, interrompit Henri, ce que nous avons de mieux à faire.
Oui, dit Charles, c'est de soigner, moi, ma contusion, vous, Anjou, d'essuyer votre sirop d'orange, et vous, Guise, de faire disparaître votre graisse de sanglier.
Et là-dessus, ils sortirent sans se donner la peine de refermer la porte. Arrivé à la rue Saint-Antoine,
où allez-vous, messieurs? Dit le roi au duc d'Anjou et au duc de Guise.
Sire, nous allons chez Nantouillet, qui nous attend à souper, mon cousin de Lorraine et moi. Votre Majesté veut-elle venir avec nous?
Non, merci, nous allons du côté opposé.
Voulez-vous un de mes porte-torches?
Nous vous rendons grâce, sire, dit vivement le duc d'Anjou.
Bon, il a peur que je ne le fasse espionner, souffla Charles à l'oreille du roi de Navarre.
Puis, prenant ce dernier par-dessous le bras, « Viens, Henriot, je te donne à souper ce soir. »«
Nous ne rentrons donc pas au Louvre ?» demanda Henri.
« Non, te dis-je, triple entêté, viens avec moi, puisque je te dis de venir, viens. »
Et il entraîna Henri par la rue Geoffroy-Lanier. Au milieu de la rue Geoffroy-Lanier venait aboutir la rue Grenier-sur-l'Eau, et au bout de la rue Grenier-sur-l'Eau s'étendait à droite et à gauche la rue des Bars. Là, en faisant quelques pas vers la rue de la Mortellerie, on trouvait à droite une petite maison isolée au milieu d'un jardin clos de hautes murailles et auquel une porte pleine donnait seule entrée. Charles tira une clé de sa poche, ouvrit la porte qui céda aussitôt, étant seulement fermée aux peines. Puis, ayant fait passer Henri et le laquais qui portait la torche, il referma la porte derrière lui. Une seule petite fenêtre était éclairée, Charles la montra du doigt en souriant à Henri.
« Sire, je ne comprends pas, » dit celui-ci.
« Tu vas comprendre, Henriot. »
Le roi de Navarre regarda Charles avec étonnement. Sa voix, son visage, avait pris une expression de douceur qui était si loin du caractère habituel de sa physionomie que Henri ne le reconnaissait pas.
« Henriot, » lui dit le roi, « je t'ai dit que lorsque je sortais du Louvre, je sortais de l'enfer. Quand j'entre ici, j'entre dans le paradis. »
« Sire, » dit Henri, « je suis heureux que votre majesté m'ait trouvé digne de me faire faire le voyage du ciel avec elle. »
« Le chemin en est étroit, » dit le roi en s'engageant dans un petit escalier, « mais
c'est pour que rien ne manque à la comparaison. Et quel est l'ange qui garde l'entrée de votre Éden, sire? Tu vas voir, répondit Charles IX. Et faisant signe à Henri de le suivre sans bruit, il poussa une première porte, puis une seconde, et s'arrêta sur le seuil. « Regarde, » dit-il. Henri s'approcha, et son regard demeura fixé sur un des plus charmants tableaux qu'il eut vu. C'était une femme de 18 à 19 ans à peu près, dormant, la tête posée sur le pied du lit d'un enfant endormi, dont elle tenait entre ses deux mains les petits pieds rapprochés de ses lèvres, tandis que ses longs cheveux ondoyaient, épandus comme un flot d'or. « Oh, sire, dit le roi de Navarre, quelle est cette charmante créature ?»« L'ange de mon paradis, Henriot, le seul qui m'aime pour moi. » Henri sourit. « Oui, pour moi, dit Charles, car elle m'a aimé avant de savoir que j'étais roi. Et depuis qu'elle le sait ?»« Eh bien, depuis qu'elle le sait, dit Charles avec un soupir qui prouvait que cette sanglante royauté lui était lourde parfois, depuis qu'elle le sait, elle m'aime encore. » Ainsi juge. Le roi s'approcha tout doucement, et sur la joue en fleur de la jeune femme, il posa un baiser aussi léger que celui d'une abeille sur un lys, et cependant, la jeune femme se réveilla. « Charles, murmura-t-elle en ouvrant les yeux. « Tu vois, dit le roi, elle m'appelle Charles. » La reine dit « Sire. »« Oh !» s'écria la jeune femme, « vous n'êtes pas seule, mon roi. »« Non, ma bonne Marie, j'ai voulu t'amener un autre roi, plus heureux que moi, car il n'a pas de couronne, plus malheureux que moi, car il n'a pas une Marie touchée. Dieu fait une compensation à tout. « Sire, c'est le roi de Navarre ?» demanda Marie. « Lui-même, mon enfant. Approche, Henriot !» Le roi de Navarre s'approcha. Charles lui prit la main droite. « Regarde cette main, Marie, dit-il, c'est la main d'un bon frère et d'un loyal ami. Sans cette main, vois-tu... Eh bien, si. Eh bien, sans cette main, aujourd'hui, Marie, notre enfant n'aurait plus de père. » Marie jeta un cri, tomba à genoux, saisit la main de Henri et la baisa. « Bien, Marie, bien, dit Charles. Et qu'avez-vous fait pour le remercier, sire ? « Je lui ai rendu l'appareil. » Henri regarda Charles avec étonnement. « Tu sauras un jour ce que je veux dire, Henriot. En attendant, viens voir. » Et il s'approcha du lit où l'enfant dormait toujours. « Eh, dit-il, si ce gros garçon-là dormait au Louvre au lieu de dormir ici, dans cette petite maison de la rue des Barres, cela changerait bien des choses dans le présent et peut-être dans l'avenir. » « Sire, dit Marie, n'en déplaise à votre majesté, j'aime mieux qu'il dorme ici, il dort mieux. »« Ne troublons donc pas son sommeil, dit le roi, c'est si bon de dormir quand on ne fait pas de rêve. » »« Eh bien, sire, dit Marie, en étendant la main vers une des portes qui donnait dans cette chambre, « Oui, tu as raison, Marie, dit Charles IX, soupons. Mon bien-aimé Charles, dit Marie, vous direz au roi, votre frère, de m'excuser, n'est-ce pas ?» Et de quoi? De ce que j'ai renvoyé nos serviteurs, sire, continua Marie en s'adressant au roi de Navarre. Vous saurez que Charles ne veut être servi que par moi. Ventre saint gris, dit Henri, je le crois bien. Les deux hommes passèrent dans la salle à manger, tandis que la mère, inquiète et soigneuse, couvrait d'une chaude étoffe le petit Charles, qui, grâce à son bon sommeil d'enfant que lui enviait son père, ne s'était pas réveillé. Marie vint le rejoindre. « Il n'y a que deux couverts, dit le roi. Permettez, dit Marie, que je serve vos majestés. »« Allons, dit Charles, voilà que tu me portes malheur. »« Comment, sire ? N'entends-tu pas ? Pardon, Charles, pardon. Allez, je te pardonne, mais place-toi là, près de moi, entre nous deux. » »« J'obéis, dit Marie. » Elle apporta un couvert, s'assit entre les deux rois et les servit. « N'est-ce pas, Henriot, que c'est bon, dit Charles, d'avoir un endroit au monde dans lequel on ose boire et manger sans avoir besoin que personne fasse avant vous l'essai de vos vins et de vos viandes ?»« Sire, dit Henri en souriant et en répondant par le sourire à l'appréhension éternelle de son esprit, croyez que j'apprécie votre bonheur plus que personne. » Aussi, dis-tu bien, Henri, que pour que nous demeurions ainsi heureux, il ne faut pas qu'elle se mêle de politique, il ne faut surtout pas qu'elle fasse connaissance avec ma mère. La reine Catherine aime en effet votre majesté avec tant de passion qu'elle pourrait être jalouse de tout autre amour, répondit Henri, trouvant par un subterfuge le moyen d'échapper à la dangereuse confiance du roi. Marie, dit le roi, je te présente un des hommes les plus fins et les plus spirituels que je connaisse. À la cour, vois-tu, ce n'est pas peu dire, il a mis tout le monde dedans. Moi seul l'ai vu clair peut-être, je ne dis pas dans son cœur, mais dans son esprit.
Sire, dit Henri, je suis fâché qu'en exagérant l'un comme vous le faites, vous doutiez de l'autre.
Je n'exagère rien, Henriot, dit le roi. D'ailleurs, on te connaîtra un jour.
Puis, se retournant vers la jeune femme, il fait surtout des anagrammes à ravir.
Dis-lui de faire celle de ton nom, et je te réponds qu'il la fera.
Oh, que voulez-vous qu'on trouve dans le nom d'une pauvre fille comme moi? Quelle gracieuse pensée peut sortir de cet assemblage de lettres avec lesquelles le hasard a écrit « Marie touchée » ?
Oh, l'anagramme de ce nom, sire, dit Henri, est trop facile. Je n'ai pas grand mérite à la trouver.
Ah, c'est déjà fait, dit Charles. Tu vois, Marie?
Henri tira de la poche de son pourpoint ses tablettes, en déchira une page, et en dessous du nom, Marie touchée, écrivit « Je charme tout ». Puis il passa la feuille à la jeune fille.
« Ah, en vérité, s'écria-t-elle, c'est impossible !»«
Qu'as-tu trouvé ?» demanda Charles.
« Sire, je n'ose répéter, moi. »«
Sire, dit Henri, dans le nom de Marie Touchet, il y a lettre pour lettre, en faisant de l'i un j, comme c'est l'habitude, je charme tout. »
« En effet, s'écria Charles, lettre pour lettre. Ah, je veux que ce soit ta devise. Entends-tu, Marie? Jamais devise n'a été mieux méritée. Ah, merci, Henriot. Marie, je te la donnerai écrite en diamant. »
Le souper s'acheva. 2 heures sonnèrent à Notre-Dame.
« Maintenant, dit Charles, en récompense de son compliment, Marie, tu vas lui donner un fauteuil où il puisse dormir jusqu'au jour. Bien loin de nous seulement, parce qu'il ronfle à faire peur. » Puis, si tu t'éveilles avant moi, tu me réveilleras, car nous devons être à 6 heures du matin à la Bastille.
Bonsoir, Henriot, arrange-toi comme tu pourras. Mais, ajouta-t-il en s'approchant du roi de Navarre et en lui posant la main sur l'épaule, sur ta vie, entends-tu bien, Henri, sur ta vie, ne sors pas d'ici sans moi, surtout pour retourner au Louvre.
Henri avait soupçonné trop de choses dans ce qu'il n'avait pas compris pour manquer à une telle recommandation.
Charles IX entra dans sa chambre et Henri, le dur montagnard, s'accommoda sur un fauteuil où bientôt il justifia la précaution qu'avait prise son beau-frère de l'éloigner de lui. Le lendemain, au point du jour, il fut éveillé par Charles. Comme il était resté tout habillé, sa toilette ne fut pas longue. Le roi était heureux et souriant comme on ne le voyait jamais au Louvre. Les heures qu'il passait dans cette petite maison de la rue des Barres étaient ses heures de soleil. Tous deux repassèrent par la chambre à coucher, la jeune femme dormait dans son lit, l'enfant dormait dans son berceau, tous deux souriaient en dormant. Charles les regarda un instant avec une tendresse infinie, puis, se tournant vers le roi de Navarre, « Henriot, lui dit-il, s'il t'arrivait jamais d'apprendre quel service je t'ai rendu cette nuit et qu'à moi il m'arrive un malheur, souviens-toi de cet enfant qui repose dans son berceau. » Puis, les embrassant tous deux au front, sans donner à Henri le temps de l'interroger, « Au revoir, mes anges, » dit-il, et il sortit. Henri le suivit, tout pensif. Des chevaux, tenus aux mains par des gentilshommes auxquels Charles IX avait donné rendez-vous, les attendaient à la Bastille. En arrivant au Marais, et comme à l'abri des palissades on découvrait tout ce qu'on appelait alors les faubourgs Saint-Laurent, Charles montra à Henri, à travers la brume grisâtre du matin, des hommes enveloppés de grands manteaux et coiffés de bonnets de fourrure qui s'avançaient, à cheval, précédant un fourgon pesamment chargé. À mesure qu'ils avançaient, ces hommes prenaient une forme précise et l'on pouvait voir, à cheval comme eux et causant avec eux, un autre homme vêtu d'un long manteau brun et le front ombragé d'un chapeau à la française.
« Ah !» dit Charles en souriant, « je m'en doutais. »«
Eh, sire, dit Henri, je ne me trompe pas, ce cavalier au manteau brun, c'est le duc d'Anjou. »«
Lui-même, dit Charles IX, range-toi un peu, Henriot, je désire qu'il ne nous voie pas. »
« Mais, demanda Henri, les hommes au manteau grisâtre et au bonnet fourré, quels sont-ils? Et dans ce chariot, qu'y a-t-il? »
« Ces hommes, dit Charles, ce sont les ambassadeurs polonais, et dans ce chariot, il y a une couronne.
Et maintenant, continua-t-il, en mettant son cheval au galop et en prenant le chemin de la porte du temple,
viens, Henriot, j'ai vu tout ce que je voulais voir. »